L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bienvenue dans l'EM, où nous continuons notre série d'émissions avec la Mutualité française de Bretagne. Il sera question de la prévention des chutes et plus largement, nous évoquons la question du troisième âge et du maintien au domicile. Alors pour cela, nous recevons plusieurs professions et corps de métier dans l'accompagnement du quotidien. Nous recevons aujourd'hui une diététicienne. Nous serons avec Marine Mihalevitch et nous aborderons la question de l'alimentation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous prenons rendez-vous avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité française de Bretagne, qui nous parle des enjeux autour de la prévention des chutes. Nous sommes avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité française de Bretagne. Nous allons réaliser ensemble une série d'émissions. Quels vont être le sujet de ces émissions?
Alors, c'est celui du maintien de l'autonomie des personnes âgées et de la prévention des chutes. Donc, pour resituer un petit peu la Mutualité française Bretagne, en fait, elle fédère plus de 160 mutuelles. Et en fait, ça représente un Breton sur deux. Donc, elle milite pour le maintien d'une protection sociale et solidaire, mais aussi sur l'accès à la santé pour tous. Donc on a des actions de prévention un petit peu partout sur le territoire. Le but, c'est vraiment de rendre les Bretons acteurs de leur santé en adoptant des comportements d'amélioration et de protection de leur santé.
Comment et pourquoi les mutualités françaises de Bretagne ont-elles décidé d'investir cette question des chutes?
Alors, pour donner quelques chiffres, en 2030, il y aura un Breton sur trois qui aura plus de 60 ans ou plus, contre 1 sur 4 en 2008. Donc le vieillissement, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir. On sait également que tout ce qui est chute chez les sujets âgés, c'est une question qui est fréquente, vraiment quelque chose qui arrive assez souvent, sachant que une personne sur trois de plus de 65 ans, va faire une chute au cours de l'année. Et puis il y a aussi les conséquences des chutes, en fait, qui peuvent être physiques, psychologiques ou sociales, plus ou moins graves en fonction de la personne, et qui peut avoir des répercussions sur l'entourage. Donc on peut dire que cette chute, elle est multifactorielle. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on peut agir sur certains facteurs, notamment sur tout ce qui est l'aménagement. Voilà, on pense pas forcément, mais c'est vrai qu'un aménagement de la pièce à vivre peut être très important. Tout ce qui est aussi alimentation, faire des bilans de santé. Donc c'est pour ça qu'on fait de la prévention, c'est pour éviter ces chutes des personnes âgées.
Alors nous allons faire une série d'émissions avec les mutualités françaises de Bretagne. Au nombre de trois, quels vont être les axes de prévention que l'on va aborder dans ces émissions?
Alors, autour de ces trois émissions, en fait, on va aborder différentes thématiques, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement du logement. Voilà, comment aussi bien s'alimenter, c'est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup de personnes âgées sont dénutries. Or, en fait, il y a une nutrition qui est très spécifique à cet âge-là. Et après, on va parler aussi de l'activité physique, donc activité physique adaptée à son âge. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on ne peut pas bouger. Bien au contraire, il y a des choses qui sont très adaptées au quotidien et c'est très important de rester en mouvement.
Et on écoutait Élodie Brenne de la Mutualité française de Bretagne. Alors, histoire de se mettre dans la thématique de manière progressive, la sonnette du jour proposée par la Mutualité française nous propose d'entendre une petite histoire du quotidien, celle vécue par Juliette à l'hôpital.
Bonjour mesdames.
Bonjour docteur.
Bon, plus de peur que de mal, vous pourrez sortir demain, Nathalie. Même chose pour vous, Madame Bognec. Rien de cassé. Ma chambre est miraculée ici.
Même pas un petit col du fémur.
Oh, mais vous savez, ça aurait pu être très grave. D'ailleurs, on vous garde aujourd'hui en observation. Vous prenez des médicaments?
Oh oui, pour dormir. Tenez, j'ai mon ordonnance.
Oula, mais y a de quoi endormir un éléphant avec ça.
Mais dites donc, je surveille ma ligne pourtant.
Je plaisante, mais je trouve les doses un peu fortes. Vous vous couchez à quelle heure?
Oh, je me couche vers 20h. Mmh. Je me réveille vers 2h. Alors du coup, je prends un ou deux cachets et je me rendors jusqu'à 7 ou 8 heures.
Et vous faites la sieste?
Oh, pas vraiment. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à regarder les feux de l'amour sans piquer un peu du nez.
Vous savez, avec l'âge, on a moins besoin de sommeil. Il n'est pas bon de se gaver de cachets pour se forcer à dormir.
Ah oui, mais docteur, quand on dort, on ne pense pas. Vous savez, les nuits sont longues.
Je sais, c'est pour ça aussi que vous prenez des antidépresseurs.
Oh, cet hiver, j'étais un peu déprimée. Oui, j'en ai parlé à mon médecin, mais maintenant, je vais mieux.
Vous savez, les mélanges, c'est pas l'idéal. Vous étiez déjà tombée avant?
Non. Ah si, le mois dernier, c'était mouillé, j'ai glissé devant l'évier. J'avais le genou un peu raide, alors il a lâché.
Eh bien, on verra tout ça demain.
La révision complète, quoi.
Et nous sommes de retour en studio avec notre invitée, Marine Mialevitch, diététicienne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec ce qu'on vient d'entendre, alors on parle beaucoup de sommeil, de médicaments aussi, mais il y a peut-être un lien indirect avec l'alimentation, peut-être ?
Oui, bien sûr, hein, l'alimentation va avoir un impact évidemment sur le risque de chute, notamment avec les enjeux de l'alimentation de la personne âgée, hein, qui vont être de maintenir une masse musculaire suffisante, et ainsi qu'une masse osseuse. Donc l'alimentation, par le biais d'éléments préventifs, hein, avant dès 55 ans, hein, et évidemment à partir de 75 ans, vont avoir un impact non négligeable, oui.
Tout est lié, mais on va y revenir plus en détail. Peut-être, juste avant justement de parler de tout ça, pouvez-vous vous présenter le métier déjà diététicienne? Qu'est-ce que c'est? Et puis votre structure?
Oui, donc moi je suis donc responsable du pôle senior et personnes âgées de l'association Défi Santé Nutrition. C'est une association de prévention basée à Brest. On existe depuis 2003 et donc on va faire des interventions et de la formation professionnelle sur les thématiques de la nutrition santé, donc alimentation et activité physique. Et puis cela fait quelques années maintenant que l'on se forme également et que l'on va informer sur la thématique du sommeil.
Très bien. Alors, peut-être pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites plus spécifiquement sur la prévention des chutes? Parce que c'est la conséquence, justement, de plein de choses, quoi.
Alors, sur la prévention des chutes, on va avoir, notamment auprès des seniors et des personnes âgées, des programmes de prévention qui vont être notamment financés par l'Agence régionale de santé Bretagne, par le conseil départemental, par également les caisses de retraite. Hein, on voit que c'est vraiment des enjeux de santé publique et des préoccupations vraiment des politiques publiques pour mettre en place donc des programmes sur différentes thématiques. Et nous mettons en place des programmes sur la thématique de la nutrition, donc de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil, dans le but de maintenir l'autonomie du senior à domicile et donc évidemment d'éviter les chutes, de maintenir un capital santé satisfaisant et donc de vraiment lutter contre la perte d'autonomie.
Alors pour aller directement justement sur cette question des chutes, c'est quoi la conséquence ensuite d'une chute ?
Alors, comme l'a expliqué Élodie Brem, hein, de la mutualité, en effet, les conséquences des chutes, elles sont vraiment multiples. On a d'abord les conséquences physiques. Hein, évidemment, on peut tout de suite penser à une fracture, à des plaies, des traumatismes, des contusions, mais également, on a des conséquences sur l'aspect psychologique, mental, et puis des conséquences sur l'aspect social. Des conséquences mentales avec une peur de rechuter, ce qui va entraîner, évidemment, une diminution par la suite des activités potentiellement à risque, des activités physiques, et qui va avoir un impact directement sur l'aspect physique, puisque ça va entraîner une diminution de la masse osseuse et de la masse musculaire et donc augmenter le risque de chute. Donc on voit vraiment que c'est un cercle vicieux. Et on a également des conséquences sur l'aspect social avec vraiment un repli sur soi, hein, et une diminution vraiment des sorties, des activités et donc des interactions avec son environnement et avec les autres. Évidemment, on a des causes environnementales, hein, notamment avec quand on va faire des activités à risque, également dans le logement. avec des aménagements qui peuvent être vraiment peu adaptés aux chutes, hein, des tapis, des escaliers. Et puis après, on va voir toutes les causes individuelles. Vraiment, on peut avoir une altération des sens, la diminution de la vue. Notamment, on peut avoir des troubles cognitifs qui peuvent nous faire entraîner des chutes. On parlait de cette diminution de la masse musculaire, donc le tonus musculaire va être moins efficace, donc plus propice à chuter, des problèmes de pied, des difficultés à se chausser, avec des déformations qu'on peut avoir avec l'âge, des problèmes d'arthrose également, qui peuvent entraîner des chutes. On peut aussi avoir des, au niveau de la tension, hein, on peut avoir des bascules de tension, hein, quand on va se lever, faire un mouvement trop rapide, avoir des baisses de tension soudaines et donc entraîner potentiellement des chutes. Et puis bien sûr l'âge. L'âge fait que le risque de chute va augmenter implicitement.
Alors l'alimentation, quand est-ce qu'elle intervient là-dedans ?
Alors l'alimentation, même au-delà de la prévention des chutes, hein, on a vraiment des enjeux au niveau de l'alimentation de la personne âgée qui va contribuer à prévenir des chutes, mais à prévenir également de d'autres pathologies comme la dénutrition qui a été évoquée un petit peu avant par Élodie. On a des points vraiment de vigilance à avoir. Souvent, on a l'idée que la personne âgée doit moins manger. Elle se dépense moins, donc elle va avoir moins de besoins. C'est pas tout à fait...
C'est une idée reçue, ça.
Voilà, c'est vraiment une idée reçue et c'est vraiment une idée que les personnes elles-mêmes ont et vraiment qui est vraiment inclus dans la société aussi. Hein. La personne âgée se dépense moins, on est en perte d'autonomie. Donc vraiment l'alimentation, une petite soupe, un yaourt et puis au lit, et puis ça suffit. On a vraiment, en réalité, hein, les besoins du corps sont vraiment différents. Et un senior, une personne âgée, a des besoins identiques à une personne, alors même si je n'aime pas employer ce mot, à un adulte, hein, en tout cas une personne voilà, de 30, 40, 50 ans.
On va dire une personne active, quoi.
Une personne active, voilà, tout à fait. Puisque les besoins, vraiment, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, pour assurer les fonctions vitales. Une personne âgée peut avoir un rendement énergétique un petit peu moins efficace qu'une personne active. Pour faire une petite métaphore, on pourrait dire que une personne active, c'est une voiture qui consomme du 5 litres au 100 km. Et puis une personne âgée, eh bien, elle va consommer plus. Elle va consommer 10 litres au 100. Donc finalement, pour un même mouvement, elle va engager beaucoup plus d'énergie. Donc même si elle se dépense moins, bah finalement, elle va avoir besoin davantage d'énergie pour assurer quand même l'activité qu'elle continue de faire.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut penser ça justement, que ce soit inscrit dans les idées communes, que la personne âgée finalement a besoin, entre guillemets, de moins manger ? C'est arrivé comment ça, alors que c'est complètement... c'est pas vrai du tout, alors, de ce
oui,
que vous nous dites.
Oui, oui. Alors, déjà, comme je le disais, on a la diminution, la potentielle diminution des activités, bien qu'aujourd'hui, on arrive sur les premières générations de seniors qui, finalement, avaient un métier plutôt sédentaire. Hein. Il y a quelques dizaines d'années, c'était pas le cas. Les seniors étaient... vraiment dans leur vie professionnelle très actif. Là, on arrive sur les générations de seniors qui ont passé leur vie active peut-être derrière un bureau et qui finalement, au moment de la retraite, se retrouvent à faire beaucoup d'activités et finalement sont vraiment peut-être même des fois plus actives que lorsqu'elles étaient actives professionnellement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée préconçue dans les pensées, hein, dans la pensée générale. On a aussi peut-être le fait de voilà on se dépense moins, on va vers la baisse d'autonomie et ça va entraîner des modifications sur l'alimentation. On a aussi le fait il y a eu la ménopause, l'andropause également chez les hommes. On a peut-être pris un peu de poids avec tout ce bouleversement hormonal, donc il faut faire attention aussi et on va essayer de contrôler notre image corporelle.
Vous avez parlé à un moment donné aussi de dénutrition.
Oui.
Qu'est-ce qui entraîne ça ? C'est une perte d'appétit ?
Oui,
on entendait
voilà.
Juliette tout à l'heure, la dépression, tout ça, ça aide pas non plus, quoi.
C'est ça. On a également, ce qui peut expliquer cette idée reçue, eh bien, on a quand même une diminution des sensations de faim, de satiété, et on va avoir une diminution aussi physiologique de l'appétit. L'appétit, c'est vraiment notre envie de manger. Mais ce qui ne veut pas dire que même si notre appétit est diminué, nos besoins sont diminués. Et c'est là où c'est tout le paradoxe, c'est que on dit souvent qu'il faut écouter son corps, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ben, les signaux que peuvent nous envoyer notre corps, ben, c'est pas forcément les bons signaux à écouter, et il faut vraiment apporter ben, un minimum d'énergie.
Ça rejoint la problématique de l'hydratation.
Oui, bien sûr, oui. Hein, on a la sensation de faim qui diminue, mais également la sensation de soif. Et donc, évidemment, les messages de prévention qui sont délivrés, de ne pas attendre d'avoir soif pour boire, c'est vraiment très, très important, puisque l'hydratation a vraiment un rôle très important. Et les conséquences de la déshydratation peuvent être dramatiques, comme la dénutrition, hein, et peuvent entraîner vraiment des troubles au niveau physique, mais aussi tout de suite au niveau cognitif.
Alors, il y avait un autre aspect aussi là dans l'histoire de Juliette à l'hôpital, c'est son sommeil. Alors, 20 heures, 2 heures, petite pause, on repart, médicaments, et ça permet de faire une grosse nuit. L'alimentation là-dedans, on sait qu'elle a un rôle, c'est très lié, sommeil, alimentation.
Oui.
De quelle manière ?
Alors, l'alimentation et le sommeil sont très liés en effet. On dit souvent aussi, il y a une autre idée reçue que tout le monde a entendue, le soir il faut manger léger. Mais c'est pas vraiment ça, il faut manger léger, c'est plutôt le soir, il faut plutôt manger digeste. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez confondu. Finalement, je parlais au début de la soupe et du yaourt, c'est pas du tout suffisant, puisque dans une soupe, bah, on a des légumes, on a de l'eau. Finalement, au niveau énergétique, bah, c'est très peu énergétique. Et quand on pense justement... Bah, à l'heure du dîner et à l'heure du petit déjeuner, on a une plage horaire, on appelle ça le jeûne nocturne, qui est assez importante. Et en vieillissant, il faut être très vigilant à ne pas avoir un jeûne nocturne supérieur à 12 heures. Et l'alimentation, pour cela, ben, le repas du soir doit être constitué eh bien, d'un apport en protéines, puisque les protéines, c'est primordial dans l'alimentation de la personne âgée pour maintenir la masse musculaire, mais aussi pour maintenir d'autres fonctions, continuer à fabriquer, à régénérer les cellules, continuer à fabriquer des anticorps, des hormones, etc. Et également, bah vraiment, à jouer tous les grands rôles hein, de physiologiques. On a également un apport en énergie essentiel à apporter le soir par une source de féculents, par exemple, donc du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre. Idéalement, aller vers des féculents complets ou semi-complets pour que ça tienne aussi plus longtemps dans le corps, hein, puisqu'on a un apport de fibres plus important. Donc vraiment, il faut avoir un apport supplémentaire hein, que cette soupe qui va être vraiment trop légère.
Comment les personnes âgées réagissent à votre discours ? D'ailleurs, de quelle manière et dans quel contexte vous transmettez des informations ?
Alors, nous, on peut agir sous différents formats. Hein. On fait des conférences hein, adaptées aux seniors. Et après, on va avoir des programmes. On va prendre 10 ou 12 personnes sur plusieurs semaines, hein, sur 3 mois, à raison d'une séance par semaine. Et là, on va réaliser des ateliers pratiques, des ateliers d'échange avec des outils ludiques, des ateliers cuisine, des ateliers d'activité physique adaptée également, pour vraiment ben, lier la théorie et la pratique. Souvent, les personnes qui s'inscrivent à ces programmes ont plutôt des problématiques de perte de poids. Elles s'inscrivent vraiment, bah, on va voir une diététicienne, c'est pour perdre du poids. Alors qu'on n'est pas du tout dans ces enjeux-là. Hein. Évidemment, on peut limiter la prise de poids. Hein. Évidemment, la prise de poids peut avoir un impact sur les maladies cardiovasculaires, hein, notamment qui sont très présentes également avec l'âge. Mais on a d'autres enjeux et il faut absolument maintenir des besoins suffisants et adaptés à son âge.
Alors, si on fait le résumé sur les préjugés, le premier, c'est alors faut manger digeste le soir.
Oui.
Le deuxième, c'est faut manger, parce que plus on est âgé, plus le rendement est mauvais. Il y en a d'autres encore, des préjugés comme ça.
Mais justement, si on repart sur le sommeil, dans la petite capsule, Juliette nous disait qu'elle se réveillait à 2h du matin. Les personnes âgées, elles vont avoir des évolutions avec le sommeil. Et notamment, on a une augmentation un petit peu physiologique des réveils nocturnes. Il y a plein de raisons qui font qu'on va pouvoir se réveiller plus facilement. Le sommeil, il est organisé en cycle, à peu près en cycle d'une heure trente, et puis ça va recommencer. Entre deux cycles, on a un petit temps de latence. C'est un temps où on peut avoir des micro-réveils. Ce temps de latence, en vieillissant, il va augmenter. En augmentant, on augmente le risque de se réveiller. On a également la composition des cycles qui est modifiée. On a notamment moins de sommeil profond et une augmentation du sommeil léger. Le sommeil léger, c'est un sommeil où on peut facilement sortir du sommeil par un bruit, par quelque chose qui va venir parasiter notre environnement et notre sommeil. Et donc tout ça peut faire de multiples réveils nocturnes. Et l'alimentation peut également participer au réveil nocturne. Si j'apporte pas assez, mon corps, à un moment donné, il va plus avoir assez d'énergie et la faim peut me réveiller. Et on a déjà de multiples raisons de se réveiller, l'envie d'aller aux toilettes, évidemment, quand on vieillit. Donc, on a déjà beaucoup, beaucoup de raisons de se réveiller la nuit sans venir ajouter un repas qui serait insuffisant et qui viendrait altérer en plus la qualité du sommeil.
Alors, la question de l'alimentation et celle des produits transformés chez les personnes âgées. Comment, à la maison, continuer à se faire à manger? Est-ce que vous tenez un discours particulier là-dessus? Parce que on sait que les produits transformés, vaut mieux les éviter quand on peut.
Oui, là, c'est vrai que les produits ultra transformés, c'est un sujet qui est apparu dans l'actualité il y a quelques années seulement. C'était dû à l'industrialisation. Voilà, il y a eu un petit peu...
Ça part souvent d'un scandale alimentaire.
Oui, ça part souvent d'un scandale alimentaire. Et puis au début, les additifs, c'était quelque chose de positif. On a commencé avec les conservateurs et c'était bien au début. C'était pour conserver plus longtemps ces aliments. Ça partait d'une bonne intention. Et puis après, il y a eu l'apparition des émulsifiants, des édulcorants, des arômes, des colorants, un petit peu pour maquiller les produits et pour masquer finalement le goût originel des produits. On n'était plus vraiment dans un objectif terre à terre de conserver plus longtemps mon aliment et dans une optique de sécurité et d'hygiène alimentaire. Et les produits ultra transformés, on a le début maintenant de résultats d'études. Les études, évidemment, ça met des dizaines d'années à voir vraiment les vrais impacts. Et on commence vraiment réellement à se rendre compte de l'impact nocif des produits ultra transformés. Alors, un produit ultra transformé, déjà, on peut peut-être rappeler ce que c'est.
Mais
également.
Oui, tout à fait. Vous faites une distinction entre produits transformés, ça va, et ultra transformés,
oui.
La bof, pas du tout.
Alors, qu'est-ce que c'est justement un produit ultra transformé? C'est un produit, souvent, on va regarder la liste des ingrédients. Sans pour autant prendre sa loupe, on peut déjà regarder la taille. Quand on voit qu'un produit qu'on a acheté au supermarché, par exemple, a plus de 5 ingrédients, on doit déjà avoir un premier signe d'alerte. Et là, on peut regarder un petit peu plus en détail. Et quand on va lire, si on a des ingrédients inconnus que je ne peux pas acheter en magasin...
Des trucs qui ressemblent à des formules chimiques.
Voilà, par exemple. Mais autres, ça peut être des amidons transformés, des sirops de glucose fructose. Je peux acheter du sucre en magasin. Je ne peux pas acheter du sirop de glucose fructose. Et ça, c'est un marqueur d'ultra-transformation. On a les additifs et on a les marqueurs d'ultra-transformation. Le gluten aussi, ça à la base c'est la protéine de blé, mais je ne peux pas acheter du gluten au supermarché, c'est pas possible. Et quand je veux acheter un paquet de gâteaux par exemple, si mon paquet de gâteaux, il y a des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, si moi j'avais fait ce gâteau, j'aurais mis ça. Si par exemple je vois d'autres ingrédients, du gluten, des émulsifiants, des arômes, des colorants, là non. Et là c'est un produit ultra-transformé. À distinguer d'un produit transformé. Un produit transformé, c'est je fais à la maison, quand je cuisine, je fais des produits transformés. Je prends des ingrédients bruts, ça peut être des légumes ou autres, de la viande, du poisson. Je prends des ingrédients culinaires, du beurre, de l'huile, du sel. Et avec ça, je cuisine et je crée des produits transformés. À contrario des produits ultra transformés où là, j'ai vraiment la présence d'additifs ou d'ingrédients inconnus.
Et quand ça devient un peu compliqué de se faire à manger et que c'est tentant d'aller vers ces produits ultra transformés, quel discours vous tenez?
Alors là, on a justement un discours, on fait beaucoup d'ateliers de décryptage alimentaire, on parle beaucoup de qualité alimentaire et de plus en plus dans notre discours, on tend vers une alimentation saine et durable aussi. Vraiment de parler de la qualité, de la composition des aliments. Et c'est vrai que quand on a du mal à... Quand on commence à avoir des difficultés à se faire à manger, le but n'est pas de faire de la grande cuisine. On peut tout simplement se faire cuire un petit morceau de poisson, par exemple, et accompagner de produits. On peut utiliser des produits qui sont transformés, créés par les industries agroalimentaires. Même si on a des difficultés, par exemple, on a de l'arthrose, on ne peut plus éplucher les légumes, et ça en atelier cuisine, c'est une problématique que je rencontre avec les personnes que l'on accompagne. On peut tout à fait acheter des légumes surgelés. Hein, si c'est simplement des légumes bruts qui ont été surgelés, des haricots verts par exemple naturels, même des poêlés de légumes mélangés, c'est déjà découpé, c'est déjà épluché. Mais pour la personne, on va avoir une facilité et à faire des repas simples, mais équilibrés et plutôt bruts. Mais là, on se rend compte que quand même, en tout cas, on est quand même encore sur des seniors qui ont la volonté de cuisiner, la culture de la cuisine. Oui. Ouais. Et je pense que dans les prochaines années, par contre, on va être de plus en plus confrontés à ça. Et avec la diminution de l'autonomie, après, on a des vraiment quand l'autonomie est vraiment diminuée, on peut avoir recours au portage de repas où là, on va recevoir des repas qui vont être cuisinés en cuisine centrale ou autre, et vraiment des repas qui vont être cuisinés maison quand même.
Eh bien, merci beaucoup, Marine Mihalevitch, diététicienne, chargée de projet à Défi Santé Nutrition. Et si on veut, par exemple, pour une personne âgée de notre réseau, prendre contact avec vous, comment ça se passe? Quelles sont les possibilités qu'offre la structure?
Alors, vous pouvez nous rendre sur notre site internet, www.defisantenutrition.fr, où vous pourrez retrouver les programmes en cours que nous effectuons sur le Finistère, en partie. On peut également se rendre sur le site internet Pour Bien Vivre en Bretagne, pourbienvivrebretagne.fr, où là, on peut retrouver des ateliers de prévention qui peuvent être effectués. Mais après, pour les autres personnes, voilà notre site internet, notre page Facebook également, on a notre actualité et puis on peut après vous réorienter avec les structures avec lesquelles on travaille parce qu'on ne fait pas directement de conseils aux particuliers, on passe toujours par des structures partenaires, des communes ou des centres sociaux.
Pour vous faire venir en fait.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'émission. L'émission.